La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre au dernier jour de notre série en 4 épisodes consacrée aux sœurs Brontë. Aux sœurs, mais aussi aux frères, car une fois n'est pas coutume, c'est la part masculine du quatuor qui a été exclue du groupe des écrivains qu'ils étaient tous devenus. Et si les trois filles publieront des poèmes et des romans, ce ne sera pas le cas de Branwell, le garçon de la famille. Charlotte, Anne et Émilie seront d'abord publiées ensemble avec leurs poèmes, puis séparément, avec en particulier les romans Jane Eyre, Agnès Grey et Wuthering Heights. De leur destin collectif, nous avons parlé lundi, c'était avec Dominique Jean. Wuthering Heights, ou en français Les Hauts de Hurlevent, est considéré comme l'un des livres les plus importants de la littérature anglaise. Nous nous sommes arrêtés longuement sur ce texte d'Emily Brontë, c'était mardi dernier avec Lydie Salvert et Christine Jordis. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver en podcast. Enfin hier, autre sœur, autre roman, nous nous sommes penchés sur Jane Eyre, livre que l'on doit celui-là à Charlotte Brontë. L'écrivain Dominique Barbery s'est replongé pour nous dans ce livre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous remontons aux sources littéraires de ces grands livres en racontant le fascinant rapport à la fiction qu'avaient les quatre enfants Brontë, et cela très jeune. Raymond Bellour est dans ce studio, il a dirigé l'édition critique des écrits de jeunesse de Charlotte et Patrick Branwell Brontë pour la collection Bouquins Lafond. Et comme il est en plus critique de cinéma, nous parlerons avec lui en seconde partie des adaptations sur grand écran des livres des sœurs Brontë. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Il s'agit de l'enfance comme modèle d'une souveraineté qui ne s'encombre ni des êtres, ni des événements. Et c'est pour ça qu'il n'y a dans le fond aucune psychologie dans Les Hauts de Hurlevent, que toute approche psychologique est complètement à côté, parce que c'est l'enfance en tant que modèle d'une liberté totale qui nous est proposée. Et le malheur, ou la chance, de Heathcliff et de Catherine, les deux amants qu'on dit maudits, est d'avoir vécu ensemble, à l'inverse de nous tous, qui en général le rêvons solitairement, d'avoir vécu ensemble cette liberté totale, où seule la passion donne forme au monde.
Bonjour Raymond Bellour.
Bonjour.
On vient d'entendre l'écrivaine Annie Lebrun parler des personnages d'enfants dans Les Hauts de Hurlevent. Est-ce que vous diriez que ces personnages d'enfants, de manière générale, dans l'œuvre des Brontë, tout roman confondu, on va commencer par là, est-ce que vous trouvez qu'ils ont une place particulière ?
Ben, ils ont d'abord une place totalement fondamentale dans Les Hauts de Hurlevent précisément, et ils ont une importance, je dirais, un peu biaisée dans les écrits de jeunesse, où il y a en fait assez peu d'enfants, proprement dit, je veux dire, d'enfants qui auraient cette vertu mythique. Mais par exemple, l'auteur sous le nom duquel Charlotte, pendant 7-8 ans, écrira, Lord Charles Wellesley, qui est supposé être le fils cadet de la famille Wellington, est une sorte d'enfant un peu monstrueux, surdoué, dont l'âge n'est pas très précisé. Vous voyez, il y a une fantasmatique de l'enfance, quoi, je veux dire. Mais il n'y a pas de personnage d'enfant qui serait dans les écrits de jeunesse équivalent à ce que sont Cathy et Heathcliff dans Wuthering Heights.
Mais la partie des Hauts de Hurlevent, où les personnages sont enfants, est pour vous plus importante que la suite? Parce que souvent on parle des enfants dans Les Hauts de Hurlevent, alors que bon, ils grandissent quand même ces enfants, mais on a le sentiment que ce qui compte, c'est vraiment le moment où ils sont très jeunes.
À mes yeux, tout est important dans Les Hauts de Hurlevent, qui est pour moi le plus beau roman du monde.
Ah, le plus beau roman du monde. Pour quelle raison?
Parce que c'est un livre dont la, comment dire, dont la structure en deux parties, précisément, avec le repliement de toute la seconde partie sur la première, comment dire, garantit une sorte de force cyclique, si vous voulez, du développement de l'enfance à l'intérieur du paysage. Et toute la fin, par exemple, est absolument extraordinaire. Le moment où ce qui avait d'interdit, entre guillemets, dans l'inceste, encore entre guillemets, entre Cathy et Scliff en tant que surfrères et sœurs, j'ai envie de dire, deviendra possible à travers le mariage de la deuxième Catherine et de Hareton, le fils de Heathcliff, il y a une sorte de gain extraordinaire de cette figure qui finit par triompher, si vous voulez, avec une sorte de happy end, si on peut dire. Et c'est le moment où Heathcliff meurt, disparaît, et a été aperçu sur la lande marchant avec Cathy. Vous voyez, il y a une sorte de cycle parfait. C'est un livre extraordinairement fermé sur lui-même, ce qui est une chose rare à ce point de convergence, et qui tient au caractère totalement énigmatique et presque surréel de la figure d'Emily Brontë elle-même, quoi. Je veux dire, qui est quand même une personne hors norme, si j'ose dire.
Vous le relisez souvent, ce livre?
Je ne l'ai pas relu depuis bien longtemps, mais j'ai relu deux, trois choses. Récemment, j'ai entre autres lu un petit peu Les Entours, comme ça, parce que je savais que je viendrais parler avec vous à la radio. Non, c'est un livre fabuleux, si vous voulez, au sens... c'est un livre à la fois très classique et très, je dirais, très, 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 très moderne dans la liberté de la construction, qui est tout à fait extraordinaire. C'est presque construit comme un roman de Faulkner, au niveau structurel, je veux dire, au niveau... Il y a eu d'innombrables études. C'est un des livres qui a été le plus étudié au monde. Hein. Virginia Woolf en a très bien parlé, par exemple.
Mais vous en parlez aussi très bien.
Merci.
Alors parlons de ces écrits de jeunesse, qui sont donc les prémices, finalement, de ces grands romans, et notamment des Halls de Hurlevent. D'abord, il faut dire, Raymond Bellour, que c'est un ensemble très important de textes.
C'est un ensemble très important de textes. Je suis désolé d'être un tout petit peu autobiographique pour en parler, mais je peux difficilement faire autrement, puisque j'ai entrepris au milieu des années 60, avec Jean-Jacques Pauvert, qui était un éditeur téméraire, ce qui aurait été la première édition complète au monde de l'œuvre des Brontë.
Qui a été donc faite en français, alors?
Et bien sûr, traduite. Nous avons fait traduire 14 000 pages de textes, dont 5 000 consacrées aux juvénilia, aux écrits de jeunesse. Et cette édition s'est arrêtée pour des raisons économiques, parce qu'après 68, Pauvert a été mis en règlement judiciaire, et qu'après 2-3 années, nous avons simplement publié deux volumes, l'un qui est un choix des écrits de jeunesse de Charlotte et de Branwell, et d'autre part une édition un peu critique des Hauts de Hurlevent qui a depuis été reprise en folio. Voilà. Et ça s'est arrêté là, parce que j'ai jamais pu trouver d'éditeur pour le faire. Je m'étais dit que je le ferais à la retraite, mais même à la retraite, c'est... trop compliqué.
Mais ça ne vous étonne pas que ce ne soit pas en Angleterre que ce travail ait été entrepris, ou aux États-Unis?
Si, ça m'a un peu étonné. Depuis, certains progrès, même certains considérables, ont été faits. Par exemple, Susan Alexander a fait une édition critique admirable de l'ensemble des écrits de jeunesse de Charlotte. Il y a eu d'autre part une édition des écrits de Branwell faite séparément. Et, comment dire, le vice, à mon avis, de ces travaux, par ailleurs tout à fait importants, qui n'existaient pas du tout à l'époque où moi j'ai entrepris toute mon aventure dans les années 60, c'est que ces écrits de jeunesse sont faits pour être mélangés, puisqu'il arrive qu'un texte de Charlotte réponde à un texte de Branwell écrit la veille. Il y a un texte qui s'appelle « The Liar Detected », le menteur démasqué, qui est le menteur, c'est celui qui a écrit la veille, à laquelle la sœur répond le lendemain, vous voyez, je veux dire, donc c'est des textes qui s'enchaînent les uns aux autres comme une sorte de série d'anneaux et qui n'ont de sens, mais réellement, profondément, qu'à être publiés ensemble dans la chronologie totalement stricte qui est la seule qui permette de comprendre l'enchaînement des événements d'une sorte de saga extraordinairement compliquée.
Mais alors ça signifie qu'ils se les lisaient à chaque fois qu'ils écrivaient quelque chose, qu'ils mettaient tout en commun, toujours, pour que ça se réponde comme ça à ce point?
Les textes sont sur les manuscrits. Hein. Les textes sont absolument séparés, si vous voulez. Ils sont à l'époque, d'ailleurs, dans toutes les premières années, comme ils construisent une œuvre à la mimétique de l'impression réelle, avec des petits livres signés, mis en page, avec un achevé d'imprimer presque, enfin, etc. Les textes sont séparés. Il n'y a pas de texte écrit à deux. Mais ils devaient, à mon avis, on n'a pas de témoignage très précis là-dessus, mais ils devaient sinon se les lire, ce qui n'était pas simple, hein, parce que c'était une écriture des minuscules livres couverts d'une écriture absolument minuscule. Moi qui ai travaillé des années sur les manuscrits, c'est pas facile à vérifier, à lire et tout. À mon avis, ils devaient surtout se les raconter. Je pense qu'il y avait une activité orale absolument considérable.
Se les raconter plus que se les lire ?
Je pense. Mais je peux rien en dire de plus. Hein.
Comme si l'histoire comptait plus que l'écriture en elle-même ?
J'ai tendance à le penser, au niveau des événements, des relations de parenté, parce que cette littérature des écrits de jeunesse est une littérature de surévénements, j'ai envie de dire. Il se passe tout le temps des tas de choses dans tous les sens, quoi. Je veux dire, donc je pense que la narration orale, si vous voulez, devait avoir une importance considérable et qu'elle devait même contribuer à produire l'écriture. On n'en a pas de trace exacte hein, de ça. Mais c'est la seule hypothèse qu'on peut faire à la lecture des textes.
Alors qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui devait être quand même quelque chose d'assez extraordinaire que cette rédaction en commun par des enfants qui ont quoi 11 ans jusqu'à 18 ans, quelque chose comme ça
Pour Charlotte, pour Branwell, ça va un peu plus loin. Ça va jusqu'à presque jusqu'à la fin de sa vie, en tout cas jusqu'à les dernières années. Pour Charlotte, ça s'arrête à 24 ans. Elle l'arrête solennellement dans un texte qui dit « J'ai trop longtemps séjourné dans ces contrées brûlantes », etc.
C'est comme un rite de passage, finalement, oui.
D'arrêter de faire partie de ça. Ça fait longtemps qu'elle écrivait plus du tout en connexion avec Branwell, hein, parce qu'il avait commencé sa vie assez difficile, de droguer, etc., etc. Mais je veux dire, longtemps, effectivement, ça s'est poursuivi comme ça, et ça s'est un beau jour arrêté. Mais Émilie, par exemple, n'a jamais arrêté. Le cas d'Émilie est très particulier, comme de Anne, puisque les écrits de jeunesse proprement dit sont perdus. On n'en a retrouvé que deux livres de poèmes, qui sont les poèmes extraits des écrits eux-mêmes et consignés à part dans des carnets qui ont été retrouvés. Mais il est frappant de voir qu'en 41 et en 45, c'est-à-dire quelques mois avant sa mort, Émilie continue dans les petites notes d'anniversaire qu'on a republiées dans le livre de Pauvert à l'époque et puis dans l'édition Folio. Émilie continue à raconter ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'elle appelle le Gondal, qui est une contrée séparée, qui n'est pas la même contrée que celle dans laquelle se situent les écrits de Branwell et Charlotte, qui est l'Afrique. Ouais. Elle continue à raconter ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'après Wuthering Heights, et un mois avant sa mort, elle continue à écrire ses histoires d'enfance, dites d'enfance.
Alors on va écouter justement, pour savoir un petit peu mieux de quoi il s'agit, un extrait de ses écrits, avec en particulier donc cet extrait de Glasstown, la ville de verre, lu par Guillaume Gallienne.
Le soleil s'est couché et l'orbe d'or a disparu derrière les montagnes au loin et se lève maintenant la lune d'argent et brillante scintille l'étoile du soir. Mais à l'ouest, une lueur cramoisie embrase l'horizon, teintant la nature tout entière des couleurs de la rose vives et gaies. Et dans tout le ciel à l'est, la vêture grise du crépuscule s'étend aux cieux voisins, tandis que la pâle voie lactée paraît toujours plus claire alors que baisse le jour, jusqu'à ce que, arc-en-ciel nocturne, son cintre soutienne tout le firmament. Mais dans le lointain, j'entends le rugissement des eaux, tel le jaillissement d'une cataracte, il frappe mon oreille. C'est la multitude qui gronde derrière ces murs puissants. Son bruit à des chutes d'eau déchaînées qui s'élancent impétueuses est semblable. C'est la grande et splendide cité dont le noble souverain défie les plus puissantes armées qui à ses forces se mesurent. Oh, qu'il règne à jamais dans la splendeur, que son glaive rutilant soit taché du sang bouillant des ennemis, quand bien même il chevaucherait les nuées. Puisse-t-il les abattre et les humilier de son terrible mépris? Puisse-t-il devant lui courber la tête et craindre son nom puissant?
C'est représentatif, ça, de l'ensemble des écrits, ou tout du moins d'une certaine atmosphère ou d'un certain style, Raymond Bellour ?
Oui, d'une certaine atmosphère. C'est assez propre à l'écriture de Charlotte, par opposition à celle de Branwell, qui est plus active, je dirais. Mais c'est pas moi ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez. Bon, on voit très bien que les modèles, c'est Byron, Walter Scott, c'est toute une littérature romantique.
Pourquoi on voit très bien ?
Oh ben, au choix des adjectifs, à l'atmosphère qui va être créée. Enfin, Charlotte était une lectrice absolument frénétique de Walter Scott, par exemple. Et disons que ça respire, si vous voulez, une littérature d'époque. Enfin, je veux dire, au niveau de la description. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans les écrits de jeunesse, c'est la machinerie familiale folle qui est construite dans cette Afrique de légende, hein, puisque les écrits de jeunesse se situent tous en Afrique. C'est lié à la colonisation anglaise de l'Afrique de l'époque, et c'est en gros les guerres napoléoniennes réinterprétées, le conflit franco-anglais redupliqué dans cette Afrique de légende, dans des séries d'intrigues extraordinairement compliquées. Ce qui, moi, m'intéresse plus, c'est les relations de parenté, ce qui se passe entre les gens, les déplacements de noms, les généalogies. Vous voyez, et si j'avais eu à choisir un texte de Charlotte, j'aurais choisi un texte que j'ai depuis republié dans la revue de cinéma Trafic dont je m'occupe, qui s'appelle Strange Events, Faits étranges, qu'elle a écrit à 13 ans, et qui est une sorte de rêverie fantastique qui ressemble presque au texte un peu drogué de Kinsey ou d'auteurs comme ça. Elle avait, à l'âge de 13-14 ans, une sorte de puissance visionnaire d'écrivain, si vous voulez. C'est beau ce qu'on a lu, mais c'est un petit peu plus conventionnel de mon point de vue.
Et quel rapport avait-il et quelle connaissance avait-il de l'Afrique ? Aucune. C'est un continent complètement imaginaire.
Ils avaient la chance, parce qu'ils avaient un père quand même très cultivé, qui a lui-même écrit 2-3 nouvelles, des sermons, des tas de choses. Ils avaient la chance d'être abonnés en particulier à une revue qui à l'époque était très importante, qui s'appelait le Black Hoods Magazine, qui était une revue que moi j'ai consultée largement à l'époque, et qui était une très très bonne revue généraliste, je dirais, de culture générale, comme on aimerait encore qu'il en existe aujourd'hui.
Enfin, il y a l'Obs, on verra tout à l'heure l'un de ses représentants.
Mais ce n'est pas une revue. Là, c'est une revue avec des textes longs, vous voyez, je veux dire, des textes, des tas de trucs, des tas de comptes rendus. Enfin, c'était une revue culturelle, au sens large du terme, quoi. Et ils lisaient énormément dans leur petit presbytère perdu.
Est-ce que le père lisait aussi ce que les enfants écrivaient ? Est-ce qu'il était totalement en dehors de tout cela ? Est-ce qu'il avait même connaissance de ce qui se passait dans sa propre
famille ? Il en avait connaissance parce que dans le témoignage qu'il a donné, connaissance, je ne sais pas ce que veut dire le mot connaissance, si vous voulez, est-ce qu'il les a lus réellement, j'en sais rien. Mais dans une très belle lettre qu'il a adressée après la mort de Charlotte à Elisabeth Gaskell, qui a été sa première biographe après avoir été son amie, le père, Patrick Bronte, a écrit une très longue lettre dans laquelle il témoigne de l'activité d'écriture et de création de leurs 4 enfants qui se distrayaient ainsi de la solitude, dit-il, et qui montraient des dons extraordinaires. Et il dit même qu'il a pu discerner, donc ça doit être ou à la lecture ou à l'audition. Peut-être les enfants lui ont lu des passages, vous voyez, je veux dire. Mais il était absolument conscient du génie littéraire de ses enfants.
En tout cas, et on l'a déjà raconté un peu lundi, mais on peut en redire un mot, c'est lui qui est volontairement ou pas, à l'origine de ses écrits, en offrant à ses enfants des petites figurines.
Oui, puisqu'il a ramené un jour une boîte de soldats de Leeds, et cette boîte de soldats a été immédiatement prise par les enfants, pour chacun s'attribuant un soldat, et lui donnant un nom historique ou un nom imitatif, Gravey par exemple, qui est le soldat d'Emily parce qu'il a l'air grave. Mais Charlotte choisit le duc de Wellington parce que dans la famille Bronté, on était assez traditionaliste et Wellington était à l'époque quand même le grand héros qui avait sauvé l'Angleterre. Et Branwell choisit Bonaparte aussi.
Ce qu'il a envie, il a besoin d'une certaine grandeur, Branwell.
Oui, mais ça vous laisse augurer l'un choisissant Wellington et l'autre Bonaparte. D'abord de la défaite fatale de Branwell, mais de l'héroïsme extraordinaire investi dans la figure de Bonaparte. Et donc, à partir de ces deux données-là, vous construisez toute la colonisation africaine comme déplacement des guerres napoléoniennes.
Alors je sais, Raymond Bellour, que c'est une question à laquelle il est sans doute difficile de répondre, mais c'est vrai qu'on a envie de se les imaginer travaillant au quotidien. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'heures dans la journée qu'ils pouvaient y passer? Parce que c'est difficile de faire le distinguo entre ce qui est un jeu qu'on joue comme ça de temps en temps, comme jouent les enfants, et ce qui est un univers dans lequel ces enfants plongent tellement qu'ils y sont presque toujours, et ce qui d'ailleurs peut avoir des conséquences sur leur santé mentale, on pourra peut-être en dire un mot. Est-ce qu'on a une idée vraiment de l'importance que cela prenait pour ces enfants ?
De l'importance, oui, parce que comme ça fait des milliers de pages, il faut bien trouver du temps pour les écrire. Ce qui est frappant, c'est de voir que... Parce que le jeu a été commandé. Ils ont joué d'abord les quatre ensemble, à l'époque où Branwell et Charlotte étaient les seuls à écrire, les deux cadettes, Emily et Anne étant plus jeunes, jusqu'au moment où elles se sont détachées et elles ont construit leur propre jeu, qui, comme je le disais tout à l'heure, a duré en tout cas pour Emily jusqu'à la fin de sa vie.
Et pourquoi ce schisme alors ? Il y avait une différence idéologique profonde ?
C'est difficile à dire, il n'y a pas de témoignage précis de ça. Il y a simplement le fait qu'effectivement... Gondal et Galdine, qui sont les deux îles du Pacifique dans lesquelles se situent les écrits d'Émilie, il y a des structures extraordinairement communes et des noms propres et des relations de parenté et des thèmes absolument communs aux quatre, si vous voulez. Mais c'est une intrigue séparée. Et en particulier, toute cette affaire des guerres napoléoniennes et tout ça, et de l'Afrique, n'infère absolument pas dans les écrits d'Émilie de la même façon. Donc c'est deux univers séparés. Mais pour vous donner une petite idée... De la communauté et de la privacy, pour employer un mot anglais fort, je ne sais pas quel mot employer en français pour ça. Charlotte a un beau jour découvert, parce que Émilie avait laissé traîner sur la table des textes écrits, elle a découvert l'extraordinaire force des poèmes de sa sœur, ce qui veut dire que il y avait, même s'ils écrivaient tous éventuellement sur la table de la cuisine, il y avait quand même une intimité propre à chacun, puisque c'est à partir de la révélation des poèmes d'Émilie que péniblement elle a fini par la convaincre que ça valait la peine d'être publié, qu'elle a conçu ce petit recueil de poèmes qui est leur première publication commune sous leurs trois pseudonymes masculins.
And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Cut the Night de Patti Smith, une grande admiratrice elle aussi, des sœurs Brontë. Alors ce qui est fascinant, Raymond Bellour, c'est de voir à quel point l'imagination de ces enfants peut venir empiéter sur la vie réelle, à quel point ce monde imaginaire qu'ils se sont créé va les affecter profondément, psychologiquement. Parce que c'est assez rapide, au fond, quand on vit dans un univers imaginaire, c'est assez rapide de se déconnecter d'une certaine forme de ce qu'on appelle la réalité.
Bien sûr. Non, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de voir la divergence, si vous voulez, entre les deux auteurs communs, si j'ose dire, entre le frère et la sœur, puisque Charlotte, comme je le disais tout à l'heure, a pris conscience un jour que c'était un monde dangereux, si vous voulez. Quand on travaille de très près sur les écrits, on voit que la figure de l'inceste est partout présente, enfin, et qu'il y a une sorte d'extraordinaire, bien sûr, tout ça au niveau de la sexualité, très très implicite et tout, mais il y a quand même le duc de Samorna, il a quand même 24 cousines dans lesquelles qui sont toutes amoureuses de lui. Enfin, je veux dire, c'est un monde de passion absolument brûlante, même si les choses sont dans la littérature encore quand même assez victorienne, si vous voulez. Bon, mais à partir du moment, Charlotte se rend compte que tout ça c'est dangereux. Elle arrête, elle dit, elle écrit ce texte dont je parlais tout à l'heure, on va s'éloigner de ce climat trop brûlant.
Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, est-ce que le fait que Jane Eyre soit un roman qui n'est pas conventionnel du tout, mais qui s'inscrit davantage dans la réalité que Léo de Hurlevent, par exemple, tient peut-être au fait qu'à un moment donné, elle a voulu couper avec ce monde trop imaginaire qu'elle jugeait trop dangereux?
Ah oui, je pense. Et de toute façon, Charlotte, si vous voulez, de toute la famille, était la seule qui avait un minimum de sens du réel. Enfin, je veux dire, puisqu'elle a fini par quand même accepter, c'est grâce à elle qu'il y a eu les poèmes publiés. C'est elle qui a pris l'initiative d'aller à Londres avec sa sœur montrer qu'elles étaient deux et pas, qu'elles étaient deux et par la trois, si on le racontait, et que c'était pas un seul auteur qui avait tout écrit. Charlotte a eu une sorte d'envie de, je sais pas comment dire, de publicité, c'est un peu vulgaire, mais d'envie d'être...
De réussite.
Oui, ou d'être connu, reconnu dans le monde. Il faut savoir ce que c'était, Hayworth, au 19e siècle. Hein. C'est quand même le trou du cul du monde, hein, je veux dire. Donc, sortir de là, c'était une chose immense, si vous voulez.
Donc, elle s'en sort des écrits de jeunesse, mais pas tellement son frère.
Ah, lui, pas du tout. Puisque jusqu'à la fin de sa vie, dans lesquels il y a eu deux, trois textes micro-publiés, si j'ose dire, dans des petites revues et tout, mais jusqu'à la fin de sa vie, il est dans les écrits de jeunesse. Il signe encore, deux ans avant sa mort, ou trois ans, je ne sais plus, il signe encore des poèmes du pseudonyme qui était celui de son héros dans les écrits de jeunesse, Northumberland. Northumberland, c'est la transformation d'un des grands noms de la noblesse anglaise, Northumberland, qu'il transforme en Northangerland, ce qui veut dire d'introduire la colère dans le nom. C'est le personnage qui est censé, si vous voulez, dans la saga africaine, prendre la place de Bonaparte et se battre pour les républicains contre le royaliste Wellington. Donc, jusqu'à la fin, il est identifié. Il n'en est jamais sorti.
Alors, on peut dire un mot aussi, Raymond Bellour, de la façon dont ces textes ont été découverts et considérés au fur et à mesure du temps. Assez mal considéré, sans doute au début, et puis peut-être aujourd'hui, les choses changent-elles. Comment ont-ils été découverts, pour commencer?
Leur existence, si vous voulez, factuelle et tout, a été énoncée explicitement, comme je le disais tout à l'heure, dans le témoignage que le père, Patrick Bronté, a donné à Elisabeth Gaskell, la biographe de Charlotte, qui en a publié de très très brefs extraits dans sa fameuse biographie de Charlotte Bronté. À partir de là, après la mort de Charlotte, son mari Arthur Nichols, qu'elle avait épousé quelques années avant sa mort, est reparti dans son Irlande natale en emportant une grande caisse dans laquelle il y avait l'ensemble des manuscrits.
Avec le sentiment que ça avait de la valeur ou il a gardé ça comme on garde des écrits d'enfant?
Je peux pas le dire, il en a pas témoigné. C'était un homme très discret et on n'en a rien su. Jusqu'au jour où, au début du siècle, Clement Shorter, qui est un libraire, etc., avait entendu parler, parce qu'il avait lu précisément la biographie et tout, du fait qu'il pouvait y avoir quelque part encore des choses à chercher. Il est allé en Irlande, il a persuadé Arthur Nichols de lui céder tout ça, et c'est grâce à lui qu'a commencé un extraordinairement compliqué et très long travail de découverte des écrits de jeunesse. Le moment crucial étant le moment où un érudit admirable, qui était par ailleurs employé de banque, C.V.W. Hatfield, a commencé la transcription des écrits de jeunesse qui a duré une vingtaine d'années. Transcription fatigante, hein, pénible, parce que tout ça est une écriture microscopique, très difficile à lire, des choses très compliquées. Et jusqu'au moment où, à la fin des années 30, il y a eu une édition qui s'appelle The Shakespeare Head Bronte, publié chez Blackwell, qui est la première édition presque complète des œuvres des Bronté, les écrits de jeunesse étant publiés soit en impression, soit en facsimilé.
Mais alors évidemment, ces écrits, ils ont été jugés en fonction des autres livres, les livres qui étaient, eux, devenus célèbres. Et du coup, l'image de Branwell en a là encore beaucoup souffert. Vous dites que sur le plan éditorial, il a été victime d'une idéologie éditoriale.
Oui. Je me rappelle quand j'ai écrit le seul article que j'ai écrit pour l'Universaliste, qui était l'article Bronté, j'avais parlé d'un phénomène de refoulement culturel de la part de la critique anglaise, qui s'intéressait au fond qu'à la biographie, et qui recherchait les sources des romans entièrement dans les événements biographiques qui avaient pu, même s'ils étaient relativement restreints, arriver aux enfants Bronté dans leur vie réelle, disons. Le paysage, les relations, les transformations, la famille, enfin tout ce qu'on peut inféré à partir du réel. Et personne, jusqu'à un assez extraordinaire livre de Fanny Ratchford qui s'appelle The Bronte's Web of Childhood, la toile d'araignée des Bronté de l'enfance, a fini par dire non, tout ça c'est pas vrai, les écrits de jeunesse c'est la source profonde de tous les romans. Et le livre de Fanny Ratchford n'est pas extraordinairement précis sur certains plans, c'est pas une intellectuelle, il valait mieux avoir lu Lacan et Lévi-Strauss pour être capable de les interpréter correctement, mais c'est un livre formidable du point de vue de la de casser cette idéologie traditionnelle anglaise qui tendait à faire des écrits rien du tout et de trouver dans les phénomènes de la biographie personnelle toutes les sources des romans, si vous voulez. Alors que, de manière totalement évidente, toutes les structures narratives, ou presque, sortent entièrement, y compris celle de Wuthering Heights, des écrits de jeunesse de Charlotte et Branwell.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous allons continuer de parler de tout cela avec vous, Raymond Bellour. Mais pour l'heure, comme chaque jour au mi-temps de cette émission, c'est le moment d'aller voir ce qui s'écrit du côté des revues et des magazines culturels. Je vous présente Didier Jacob du service culture de l'Obs. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous êtes lecteur, vous, des
Bronte? Écoutez, en tout cas, c'est sûr que d'écouter Raymond Bellour en parler si bien depuis le début de cette émission me donne envie de m'y replonger. Et je peux dire que, pour les auditeurs, que sa mémoire est vraiment stupéfiante, puisque depuis le début de l'émission, j'atteste qu'il parle sans notes.
Alors vous, c'est non pas des sœurs Bronté dont vous parlez dans l'Obs qui paraît aujourd'hui, mais d'une écrivaine israélienne, Zeruya Shalev, que vous avez interviewée, Didier Jacob. Elle sort Douleur chez Gallimard, un roman dans lequel elle évoque pour la première fois l'attentat, elle l'évoque de manière fictive, l'attentat dont elle a été victime en 2004.
Oui, alors Zeruya Shalev, qui sait, c'est un peu drôle. D'ailleurs, au début de l'émission, Annie Lebrun disait que les sœurs Bronté, c'était le nom psychologique. Par excellence, Zeruya Shalev, c'est un peu le contraire. C'est, au fond, c'est l'absolu de la psychologie. C'est une romancière de la vie sentimentale, mais de la vie sentimentale compliquée, où rien n'est fluide, rien n'est rose. On connaît tous ses grands livres. C'est l'une des plus grandes romancières israéliennes. Il y a en effet une petite quinzaine d'années, elle a été blessée dans un attentat à Jérusalem. Elle était victime en passant dans sa voiture. Une bombe a explosé. Elle a été très grièvement blessée. Elle a vu des gens autour d'elle brûler. Ça a été un cauchemar atroce. Elle a été à l'hôpital pendant plusieurs mois. Elle a essayé de s'en remettre. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre, mais ça va mieux maintenant. Et elle s'était toujours promise de ne jamais parler dans un livre de cet attentat, de ce qui lui est arrivé. Elle voulait pas, au fond, faire de la littérature à partir de quelque chose qui était totalement indicible. Et puis un jour, en démarrant ce nouveau livre qui s'appelle Douleur, elle s'est trouvée en train, presque contre elle, elle me l'a raconté, presque contre sa propre volonté, en train de raconter ce qui s'était passé, au travers de l'histoire d'un personnage qui s'appelle Iris, qui est un petit peu son double fictif.
C'est ça, elle n'avait pas du tout prévu de parler de cet événement.
Non seulement pas prévu, elle ne voulait pas, elle s'y était opposée, elle avait fait une sorte de pacte avec elle-même pour ne jamais le faire. Et l'écriture étant plus forte, la fiction étant en elle une sorte de, elle raconte toujours, elle dit que elle est l'esclave de la fiction, elle est l'esclave des mots de l'écriture, au fond elle n'est pas maître de ce qu'elle écrit. Ce qui est sorti de sa plume un jour, c'était ce matin où ça a explosé à Jérusalem et où elle était dans cette voiture qui a été soufflée.
C'est aussi et parallèlement le roman d'une passion, Didier Jacob.
Oui, alors on est chez Zeruya Shalev, donc il est toujours question de relations amoureuses, de relations conjugales très compliquées, très complexes, très difficiles. Et là, qu'est-ce qu'elle décrit? Elle décrit la vie d'une directrice d'école, qui était au fond un petit peu elle-même finalement, qui s'appelle Iris, qui a vécu une passion d'enfance extraordinaire avec un jeune homme, Ethan, qui était en train à l'époque de perdre sa mère. Et quand la mère est morte, c'était si difficile pour le jeune homme qu'il a décidé de se séparer en plein milieu de cette passion de d'Iris. Ils ont vécu donc séparés, chacun a fait sa vie, une vingtaine d'années a passé. Et puis, la douleur chez Iris, qui a donc souffert dans les mêmes conditions que Zerushalev, persistait. Elle va à l'hôpital pour rencontrer un médecin de la douleur et elle retrouve ce Ethan 20 ans plus tard, chacun avec sa famille, et la passion renaît. C'est une sorte de deuxième déflagration dans les vies. Évidemment, la déflagration de la bombe, et puis il y a la déflagration amoureuse qui est non moins forte et non moins terrible.
Voilà, douleur chez Gallimard. Merci beaucoup Didier Jacob, et puis votre interview évidemment de Zerushalev à découvrir aujourd'hui dans l'Obs. C'est la suite de La Compagnie des auteurs sur France Culture, quatrième épisode de notre série consacrée aux enfants Brontë, dont on ne rappellera jamais assez qu'ils ont également écrit des poèmes. En voici un d'Émilie.
Transis dans la terre et sur toi cet amas de neige profonde, loin, loin de toute atteinte, et transis dans la morne tombe. Ai-je donc oublié mon unique amour de t'aimer, séparé enfin d'avec toi par le flot ruineux du temps? À présent, lorsque je suis seul, mes pensées ne s'en vont-ils plus planer parmi les monts sur ce rivage du nord et reposer leurs ailes lasses là où la fougère et la brande couvrent ce noble cœur à jamais, à jamais? Transi dans la terre et depuis dévalant ces collines fauves, 15 inexorables hivers s'en sont venus fondre en printemps. Fidèle est-il en vérité l'esprit qui se souvient encore après pareille somme d'épreuves et de changements? Ô tendre amour de ma jeunesse, pardonne-moi si je t'oublie. Cependant, de ci de là m'emporte la marée du monde, de plus implacables désirs, de plus sombres espoirs m'assiègent, qui t'obscurcissent, il est vrai, mais sans pouvoir te faire tort. Nul soleil autre que le tien jamais n'a brillé dans mon ciel. Nulle étoile autre que la tienne jamais n'a resplendi pour moi. La seule joie qui eut ma vie m'est venue de ta chère vie. La seule joie qui eut ma vie est ensevelie avec toi. Mais lorsqu'eurent péri les jours visités de songes dorés, et que fut le désespoir même sans pouvoir pour anéantir, alors j'appris que l'existence se pouvait entretenir, réconforter, sustenter, sans le secours du bonheur. Alors, refoulant mes pleurs de vaine désespérance, déshabituant ma jeune âme d'aspirer après la tienne, j'ai réprimé d'un non sévère mon brûlant désir de rejoindre une tombe qui était déjà plus que mienne. Et je n'ose aujourd'hui encore l'abandonner à la langueur, non plus qu'à la poignante extase du souvenir. Si je m'abreuve à longs traits d'une angoisse aussi divine, comment pourrais-je à nouveau rechercher le monde vide?
Souvenance, poème d'Émilie Brontë, lu par Guillaume Gallienne. Raymond Bellour, c'est important pour vous, les poèmes dans l'œuvre, ou c'est mineur?
Les poèmes d'Émilie, certainement. Et comme je vous l'ai dit, c'est consciente de la beauté de ces poèmes que Charlotte, frappée par leur qualité propre, enfin, j'ai décidé d'entreprendre ce petit recueil collectif qui est leur premier acte de publication. Si vous voulez, pour moi, d'une certaine façon, il y a un peu la même distance entre les poèmes d'Émilie et ceux de Charlotte ou de Anne qu'il y a entre Léo d'Hurlevent et les autres romans des Sœurs Brontë, même si c'est des beaux romans, je veux dire, mais au niveau de la force littéraire... C'est un peu le même écart, si vous voulez.
D'ailleurs, on a dit que ce poème-là, en particulier, qu'on vient d'entendre, annonçait Léo de Hurlevent. Ça ne vous semble pas particulièrement juste ?
Non, du point de vue, si vous voulez, du point de vue du... Si, ce qu'on entend dans la... dans l'énoncé de la force passionnelle liant deux êtres, effectivement, peut faire penser à ce que sera la relation de Cathy et de Heathcliff.
La poésie, c'est également toute la vie où il y a des moments dans la vie des enfants où on est davantage intéressé par la poésie, puis par le roman.
Si vous voulez, il est frappant que la poésie, dans la plupart de leurs textes, n'est pas séparée. Émilie avait écrit sur un petit volume qu'on a par chance retrouvé, qui s'appelait Gondal Poems, les poèmes. Mais les poèmes étaient en général, si on en juge par la façon dont ça se passe dans les écrits de Charlotte et de Branwell, les poèmes étaient très souvent des moments versifiés à l'intérieur d'écrits par ailleurs en prose. Il y a chez Branwell des poèmes beaucoup plus séparés, beaucoup plus longs. Mais très souvent, chez Branwell comme chez Charlotte, surtout chez Charlotte, le poème est intérieur.
Et ça relève de la fantaisie du moment, ou alors il y a une raison plus
non,
particulièrement de l'ordre de la construction.
D'une sorte de liberté, de pose lyrique, si vous voulez, à l'intérieur du développement d'une intrigue. C'est très variable comme et le marquis de Douro, par ailleurs, le personnage principal des écrits de Charlotte, le duc de Samorna. Et poète lui-même. Enfin, je veux dire, donc il y a des poèmes qui lui sont prêtés. Vous voyez, je veux dire, ça va, ça vient, de façon extrêmement fluide entre prose et poésie.
Alors, vous avez également édité, d'ailleurs, vous l'avez amené aujourd'hui sur la table en folio, les Odes de Hurlevent. Ça s'appelle Hurlevent, et ça ne s'appelle pas les Odes de Hurlevent. Pour quelle raison ?
Alors, ça tient tout simplement à ce que les héritiers du premier traducteur qui a eu le coup de génie de traduire Wuthering Heights par Léo de Hurlevent.
Pourquoi c'est un coup de génie ?
Ah, parce que c'est le seul titre qui donne une sorte d'analogie, si vous voulez, de la force du titre anglais. Le mot Wuthering n'est pas traduit, c'est le côté asséchant, si vous voulez, du vent et tout, par les hauts. Mais dans les hauts, on peut penser qu'il y a du... Vous voyez, que sur les hauteurs, il y a du vent. Enfin, mais c'est quand même... C'est un très beau titre, ouais. Enfin. Et depuis... Ça a été repris en livre de poche sous ce titre par les héritiers et tout, mais ils ont interdit l'usage du titre. Si c'est que quand nous avons nous publié les écrits de jeunesse, enfin le choix d'écrit en 72, on a aussi publié Wuthering Heights en gardant le titre anglais pour l'admirable traduction qu'en avait fait Pierre Liris à l'époque, et que quand il a été publié dans une traduction que je dois dire pas très bonne de Jacques de La Cretelle. Sous le titre Haute Plainte,
que
je trouve un titre un peu ridicule. Ouais. Quand on l'a republié en folio, Gallimard a utilisé la traduction dont ils avaient les droits, si vous voulez. Ils sont arrivés à négocier d'avoir Hurlevent comme rappel de l'ancien titre, avec la parenthèse Wuthering Heights.
C'est parce qu'il y a quatre mots, les hauts de Hurlevent. Du coup, on est dans le domaine, pas de la traduction littérale de mot à mot, mais d'une traduction artistique.
Ah oui, non, je trouve que quand je disais que c'est un coup de génie, c'est une très très belle équivalence, si vous voulez, de ce que les deux mots anglais condensent. Quoi.
Et du coup, à l'étranger, alors, on traduit depuis Wuthering Heights, ou est-ce que ce titre-là, finalement, si bien traduit en français, a pu inspirer aussi d'autres traductions ?
Ah là, vous me posez une colle. Je sais simplement comment ça a été traduit dans le film de Buñuel qu'il en a tiré. Ça s'appelle Abismos des Passions.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Les abîmes de la passion.
Mais je peux pas
c'est
vous...
un bon titre,
peux...
ça
Pas terrible. Ouais. Mais je peux pas vous en dire plus là-dessus.
Alors, dans ce folio-là que vous avez sous les yeux, il y a une préface de Patti Smith. Qui a eu l'idée d'aller chercher Patti Smith pour préfacer ce livre ?
Ça, je ne sais pas. C'est pas moi. Ça vient de Gallimard. Qui m'a un jour informé que Patti Smith faisait l'honneur à Gallimard de préfacer Léo de Hurlevent, enfin l'édition folio, et que du coup on l'a republié sous une jaquette un peu différente, sans toucher du tout à l'ensemble de l'appareil critique que j'avais construit pour la publication du livre en folio à l'époque, mais en ajoutant cette préface de Patti Smith.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez naturel, finalement, entre l'univers de Patti Smith et l'univers de Hurlevent, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler.
Non, la préface est un texte assez, assez touchant. Moi, j'aime beaucoup la musique de Patti Smith. Je dois dire que je la préfère quand même à la préface qu'elle a donnée à Wuthering Heights. Ouais. Mais c'est un texte qui témoigne d'une forte émotion littéraire, si vous voulez. Donc, c'est bien. Enfin, c'est touchant, si vous voulez, en plus.
C'est pas analytique, c'est ça que vous voulez dire.
Non, mais c'est même, au niveau de l'écriture, c'est un petit peu banal, si vous voulez, par moment. Mais c'est, par ailleurs, très émouvant de penser qu'une femme comme elle a eu le besoin et l'envie d'écrire ce texte. Pour témoigner de l'extraordinaire singularité de ce livre.
Bon, Patti, si vous nous écoutez, encore un effort. Dans le second volume d'un autre de vos ouvrages qui n'a rien à voir, qui s'appelle L'Entre-Images, paru chez P.O.L. en 1999, et dans lequel vous réfléchissez, Raymond Bello, justement sur les images, vous parlez de la chambre de Cathy dans Hurlevent. Alors, c'était il y a un moment, mais est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce que vous en disiez ?
Je me souviens très bien. Parce que c'est un texte dans lequel, de façon un peu ondoyante, disons, j'essayais de lier autour de la figure de la chambre différents domaines artistiques, si vous voulez.
Donc la chambre des enfants, enfin la chambre de Catherine en particulier.
Oui, enfin, je traversais une série de chambres, si vous voulez, qui étaient des chambres dans le cinéma, des chambres dans les installations vidéo, des chambres dans la peinture, même et tout. Et m'est revenue l'envie de parler à ce moment-là de cette extraordinaire petite chambre qui, dans le musée ce qui est devenu le musée Brontë à Haworth, était la chambre d'Émilie, qui est une petite chambre extrêmement étroite, petite, dont la fenêtre donne sur le cimetière, et qui présente la particularité que ses murs sont ornés de graffitis, moitié dessinés, moitié écrits, qui ont une sorte de rapport avec les écrits de jeunesse, avec la production littéraire
Ce sont des graffitis des enfants. De Cathy et des enfants.
Pas de Cathy, d'Émilie.
Ah, d'Émilie, oui, et des enfants.
Peut-être des enfants, c'est très obscur, c'est très compliqué, mais on voit qu'il y a une activité qui s'est poursuivie jusque sur les murs, si vous voulez, dans cette petite chambre.
Ouais. Vous voyez, même moi je fais la confusion parce que dans un film qui a été adapté, on va parler des adaptations de films, de Hurlevent, de Andrea Arnold, elle a repris cette chambre avec les graffitis, chambre dans laquelle les lits d'ailleurs sont des lits clos, un petit peu comme en Bretagne, et vous trouvez que c'est une chambre dans une chambre. Cela aussi vous interpelle.
Ben absolument, parce que le roman démarre quand même sur le trauma que le narrateur Lockwood, par lequel il est pris, puisqu'il voit à travers une fenêtre, quand il est dans cette petite chambre qui était la chambre de Cathy, dans la maison, il est saisi par une apparition, je veux dire, et c'est de là que démarre toute la narration du roman, si vous voulez.
Alors les cinéastes, comment se fait-il qu'ils se soient à tel point intéressés à l'œuvre des Brontë ? C'est innombrable le nombre d'adaptations.
À partir du moment où on va adapter des romans et pas des romans et pas écrire des scénarios originaux, les romans des Brontë se prêtent quand même tout à fait à ce qu'on les adapte. C'est pas du tout étonnant qu'il y ait eu une floraison d'adaptations de leurs différents romans.
Hein. Ouais. Le premier 1909 hein, quand même, c'était Jane Eyre par Mario Caserini. Et puis ensuite, vous l'avez mentionné, alors il y en a beaucoup entre les deux, mais il y a Buñuel en 54. Ça, c'est une bonne adaptation ?
Alors, toutes les
adaptations... C'est Hurlevent. Hein,
toutes les adaptations des Odes d'Hurlevent souffrent d'un vice fondamental, c'est que personne n'a jamais été capable de tenir la totalité du roman.
Qui est trop long, en fait.
Qui est trop long. Enfin, on a fait des très longs films aussi. Mais personne n'a jamais trouvé
comment relier ces deux parties.
Pour relier les deux parties. Mmh. Donc, tout s'arrête éternellement à la mort de Cathy et à la disparition des Sclifs. Vous voyez, je veux dire, donc la deuxième partie qui restaure, comme je le disais au tout début, la passion entre les deux cousins qui devient permise et qui finit par donner une sorte de happy end au roman avec la disparition mythique de Heathcliff dans le paysage, disparaît. Donc, toute adaptation, jusqu'à nouvel ordre, m'apparaît, si on la juge en tant qu'adaptation, plutôt insuffisante. Cela dit, il y a des bons et des mauvais films.
Mmh. Et donc Buñuel serait plutôt parmi les bons ?
Buñuel est plutôt parmi les bons. Il a eu une idée quand même extraordinaire, c'est que la façon de... Je ne me rappelle plus la séquence en détail, mais la façon dont la tombe... Heathcliff va jusque ouvrir la tombe de Cathy, enfin et tout, il y a une, ouais. C'est un truc extrêmement violent dans toute la fin.
Et c'est également le cas dans le film d'Andrea Arnold. Et puis en 85, il y a Jacques Rivette. Écoutons-en un extrait.
J'ai besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Tout à l'heure, Olivier m'a demandé de l'épouser. Je lui ai donné une réponse. Avant que je te dise si c'est oui ou non, dis-moi toi ce que j'aurais dû lui répondre.
Tu as accepté?
Oui, j'ai accepté. Maintenant, dis-moi si j'ai bien fait.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'aimes?
Bien sûr, je l'aime.
Ah bon? Et pourquoi tu l'aimes?
Quelle question. Je l'aime, ça suffit?
Pas du tout. Il faut dire pourquoi.
Bah parce qu'il est beau.
Mauvais.
Il connaît une foule de choses.
Mauvais.
Je sais pas, il me plaît. Il me plaît complètement, je l'aime complètement.
Sans intérêt.
Sans tumeur.
Tu l'aimes complètement, il t'aime complètement. Qu'est-ce qui te tracasse?
Voilà un extrait de Des Hauts de Hurlevent, hein, de Jacques Rivette, Raymond Bellour, avec notamment Géraldine Chaplin. Ce n'est pas le film de Rivette qu'on retient le plus, mais tout de même, est-ce qu'on peut le voir?
Moi, je le trouve, j'ai une grande admiration pour la grande partie des films de Rivette, mais je trouve ce film un peu insuffisant. Je trouve qu'avoir projeté des jeunes gens d'aujourd'hui dans une région de France pour faire revivre cette passion... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a toujours paru. Je trouve les personnages minces. Enfin,
c'est trop profondément anglais, peut-être.
Je sais pas, mais il y a quelque chose qui marche pas dans le film de Rivette. Alors que, par exemple, Godard, en une séquence extrêmement brève de Weekend, ouais, où il fait brûler Émilie Brontë en pleine forêt, dont la robe s'enflamme et tout, il y a un passage mythique, je veux dire, où on sent qu'il a saisi un truc cristallin de la violence du personnage d'Émilie et de son roman.
Mais là, c'est un peu différent parce que ce sont non pas des adaptations, mais enfin, c'est la vie des Brontë qui inspire Godard. Et c'est le cas aussi avec Téchiné, qui a écrit et réalisé en 79 Les Sœurs Brontë. Je crois qu'on pourrait terminer finalement, Raymond Bellour, en parlant de la manière dont vous avez découvert ces Juvenilia. On va le faire un petit peu comme dans Les Hauts de Hurlevent, il y a quelque chose de cyclique entre la première et la seconde partie. Ben là, on fait la même chose. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de votre découverte de ces textes?
Eh bien, il se trouve que, porté par ma passion pour le roman, j'ai eu un jour envie d'aller dans le Yorkshire, à Haworth, voir comment c'était. J'étais accompagné de ma mère et de ma sœur.
C'était il y a longtemps, vous avez voulu...
C'est dans les... Oui, début des années 60. Mm-hmm. On a fait un très beau voyage là-bas. Et j'étais avec ma sœur, entre autres, et on a été extraordinairement frappés par quelque chose qu'on ne connaissait pas. Je veux dire, quand on a vu dans les vitrines du musée ces tout petits cahiers couverts de cette écriture minuscule, on a eu un vrai choc. Et ce deuxième hasard... encore plus fort, a fait qu'à Londres, j'ai trouvé chez un bouquiniste les deux volumes concernant les Iris de Jeunesse dans la grande édition de Shakespeare et Brontë dont je vous parlais tout à l'heure. Je les ai achetés et rentré à Paris, on a dévoré ça. Ma sœur a été très très mêlée à toute cette aventure et on a commencé à s'intéresser au problème et c'est là que j'ai commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut un jour publier ces choses? On est retourné en Angleterre. On a joui de la complicité étonnante de la conservatrice du musée qui nous a montré toutes les transcriptions de Hatfield, dactylographiées. Elle m'a même autorisé, dans la mesure où ça n'avait jamais intéressé personne depuis des années, à les sortir du musée pour aller les photocopier à 30 kilomètres.
Donc c'est en fait une partie de votre vie, autant qu'une partie de votre travail, cette exhumation des textes et ce travail sur les textes.
Oui, oui, absolument. Et à partir de là... ayant tout photocopié, j'ai persuadé Pauvert que ça a passionné. Pauvert était un grand fou d'œuvres complètes, c'était l'époque où ça marchait pour lui et tout. Et il m'a dit « d'accord, on le fait ». Et on s'est lancé là-dedans. Ma sœur a beaucoup travaillé avec moi sur une partie, de déchiffrement et tout ça. Elle m'a aidé. On a conceptualisé aussi l'ensemble, parce que c'était un travail moitié d'érudition, moitié de conceptualisation, si vous voulez. Et c'est comme ça que a commencé la jeunesse de cette étonnante aventure de traduction, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même traduit 14 000 feuillets d'anglais.
Un grand merci Raymond Bellour d'être venu ici pour clore avec nous cette semaine consacrée aux Sœurs Brontë. Je rappelle que vous avez donc édité entre autres le texte de Hurlevent chez Folio en 2015 avec donc cette préface de Patti Smith dont on a parlé. Et puis dans un autre genre, je signale votre ouvrage Pensée du cinéma paru cet automne aux éditions POL. Mais tout de suite, on termine la semaine avec Jacques Bonnafé et des poèmes de Babouyek, son recueil en particulier, L'algorithme éponyme.
Bonjour. Hier, Babouyek, notre auteur, jeune femme autiste, disait d'elle-même « énigme nihiliste teintée jour de fête ». Nous la reprenons avec ces pages. « Perdu au fond de mon corps, j'observe sans relâche le monde ». Dans les cliquetis nébuleux de la sphère cérébrale, mon œil silencieusement jaillit et s'installe. Il se colle derrière mon dos comme un bavardage promenant mon corps dans sa perception décalée. Et là, tout m'a pété à la gueule, sans sommation. Les phrases comme ça qui nous sautent à la figure dans le livre. Je suis rincé. Je demande pardon à mes géniteurs et aux créateurs de la vie dont l'identité nous échappe pour être resté en carafe dans l'incapacité d'organiser ma propre matière. Je demande pardon aux idéalistes bâtisseurs de la reluisance de ce monde de me présenter comme une tache sombre défiant le réglage de la mécanique. Je suis rincé. Nous sommes des ténors du silence, habités dans nos tripes par l'onde de choc des cerveaux sans contrôle. Avoir des envies d'exister dans son identité, c'est un combat, et j'accepte. J'accepte de me battre contre ce moi déconnant aux yeux du monde. J'accepte de me battre pour ce moi déconnant aux yeux du monde. Mais je refuse de me battre pour les yeux du monde. Suis-je condamné à l'exil? Peut-on apprivoiser l'exil? J'ai malaxé cette question accrochée à mon envie d'exister mille et une nuits. Faire surgir Aladdin de mes neurones huilés aux essences volatiles. J'y crois encore. M'envoler dans l'imaginaire collectif du magique Aladdin me transporte très haut de cette satanée terre contre laquelle mon corps s'exécute comme un pantin sans ficelle, livré à lui-même, inactivé en mode attraction terrestre. Je suis, jour et nuit, ce pantin désarticulé, entraîné à vivre autour de ses articulations, dans ce rêve qui est le mien d'atteindre le point zéro de mon réveil. Et j'articule ma pensée autour des orifices sans fond qui tapissent nos mémoires. J'articule mon besoin d'être identifié, en humaine à plein temps, autour du vide que remplit la solitude. Oiseau de liberté volé, j'imagine franchir les frontières muettes où somnole l'extase de la parole, comme ça. Je rêve de réussir à toucher la cible aux cordes concentriques qui tapissent le fond de ma gorge et de me transformer en tireur d'élite de la parole, me hissant au rôle d'être entendu. Je désigne l'acte d'être entendu comme prémisse de l'entendement. Je réclame à l'être entendant de garder une petite place dans la cellule, membrane auditive pour écouter les histoires silencieuses. Je suis né un jour de neige dans le blanc de la raison, sans amour et sans haine, à perdre la raison, dans le paradis blanc des illusions de l'éternelle innocence. Hélène Babouyek.
Merci Jacques Bonnafé pour ces extraits de textes poétiques. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.